Écho, c'est clair sur BFM Business. David Doba reçoit les décodeurs de l'écho.
Et ce dernier conseil des ministres aujourd'hui pour David Cameron, le 250e du genre en l'occurrence, David Cameron qui va donc laisser sa place à celle qui était jusqu'à aujourd'hui à sa ministre de l'Intérieur, Theresa May. Donc c'est elle qui va avoir la très très lourde tâche notamment de mettre en œuvre ce fameux Brexit. On en parle avec vous Sophie Loussouarn, bonsoir. Merci d'être avec nous, spécialiste de la Constitution britannique, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et auteur de David Cameron, un conservateur du 21e siècle, publié chez Séguier. Alors on va revenir donc sur Theresa May. Personne ne la connaît en France, j'ai envie de dire. Elle est beaucoup plus connue parce qu'elle a laissé déjà une empreinte politique, en tout cas en Grande-Bretagne. Je disais, elle a été ministre de l'Intérieur depuis 6 ans. Je crois que c'est un des plus longs mandats qu'il y a eu.
Depuis 1853, depuis Palmerston.
Voilà, ça commence à dater donc. Elle a été qualifiée de solide et de compétente, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de solide et de compétente aujourd'hui par David Cameron. Est-ce que ce sont deux mots de qualificatif qui lui collent à la peau, qui lui vont bien?
Tout à fait. Je crois que, en effet, le premier atout qu'elle présente aujourd'hui, c'est son expérience au sommet de l'État pendant 6 ans. Elle a l'expérience du fonctionnement de l'État au plus haut niveau et c'est la personnalité politique la mieux à même de mener des négociations aussi difficiles que la redéfinition des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, elle est en même temps une personnalité consensuelle et c'est une femme d'acier. Et c'est là qu'on peut voir la solidité, la détermination, aussi son souci du détail. Tout cela est très précieux pour un futur Premier ministre et c'était la grande favorite de la classe politique.
Elle a quand même bénéficié d'un certain nombre d'abandons, il faut le rappeler.
Elle a bénéficié.
On se serait dit encore 2 semaines, ça ne paraissait pas évident.
Non, pas du tout. Sans l'abandon de Boris Johnson et le coup fatal que lui a porté Michael Gove en annonçant sa candidature, sans le retrait lundi midi de Andrea Leadsom, qui avait déclaré que elle était mieux à même d'être Premier ministre parce qu'elle était mère de 3 enfants.
Theresa May n'a pas d'enfant.
N'a pas d'enfant, oui. On se serait trouvé devant une campagne de 9 semaines et le scrutin aurait eu lieu le 9 septembre. Et 150 000 membres du Parti conservateur auraient pu voter pour le futur, la future, en tous les cas. Puisque la semaine dernière, les députés, au cours de 2 scrutins, le scrutin du 5 juillet, ont départagé les 5 candidats. Mm-hmm. Donc nous avions Theresa May, Andrea Leadsom, Stephen Crabb, Liam Fox, qui tout de suite a dû abandonner face au peu de soutien qu'il avait et qui a reporté son soutien sur Theresa May. Stephen Crabb qui a reporté son soutien sur Theresa May. Michael Gove qui a été éliminé au cours du 2e scrutin. Et au 2e scrutin, Theresa May a remporté le soutien de 199 députés conservateurs sur 330. C'est quand même le soutien de 60% du parti conservateur parlementaire. Et elle fait figure de personnalité consensuelle. Alors évidemment, le Parti travailliste demande l'organisation d'élections législatives. Mais elle a exclu l'organisation d'élections législatives avant 2020.
Vous avez prononcé tout à l'heure le qualificatif de femme d'acier. Si je ne me trompe pas, évidemment, on voit tout de suite la comparaison avec la Dame de Fer. Oui. Elle sera donc, dans l'histoire de la Grande-Bretagne, la deuxième femme à la tête d'un gouvernement, deuxième femme Premier ministre après donc Margaret Thatcher, dont le mandat s'est terminé en 1990. Qu'est-ce qui rapproche et qu'est-ce qui sépare les deux femmes?
Alors, ce qui les rapproche, c'est la détermination. C'est également le souci du détail. C'est également la volonté de négocier les intérêts du Royaume-Uni. Et là, je crois que nous sommes dans un contexte totalement différent. Bien puisque sûr. Margaret Thatcher voulait obtenir un rabais sur la contribution britannique au budget européen, Theresa May sera amenée à négocier le retrait du Royaume-Uni et elle a dit « Brexit is Brexit ». Donc, il n'y aura pas de deuxième référendum. Bien qu'aujourd'hui, en effet, si on organisait au Royaume-Uni un deuxième référendum, les Britanniques voteraient pour le maintien. Elle a compris également que ce vote avait été un vote de protestation contre l'immigration. Et je pense qu'au cours de l'été, il y aura certainement un débat autour de ce contrôle des flux migratoires au Royaume-Uni. Et elle a bien mis en avant qu'il faudrait contrôler la circulation des personnes. Alors ça pose un vrai problème de renégociation, puisque l'appartenance au marché unique européen nécessite les quatre libertés européennes, la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, des capitaux et des services.
Elle est quand même moins libérale que Margaret Thatcher.
Oui, elle est beaucoup moins libérale et surtout, elle veut que le Royaume-Uni fonctionne pour tous et non seulement pour les privilégiés, et elle veut réduire la fracture sociale. Alors là, on trouve donc une image progressiste du Royaume-Uni. Finalement, elle veut compléter la tâche de David Cameron, qui avait parlé de cette big society, cette broken society, et qui n'est pas parvenue à réduire la fracture sociale, puisqu'elle s'est manifestée de manière criante au moment du référendum, avec cette opposition entre les villes et les campagnes, entre les élites et le peuple, entre les générations. Ces clivages culturels, sociaux, géographiques doivent être réduits et elle veut construire davantage de logements sociaux et lancer une stratégie industrielle. Alors là, je crois que c'est un élément novateur et elle avait déjà défini ces éléments dans son discours au congrès du Parti conservateur en octobre dernier.
Certains la comparent, ce que je lisais cet après-midi, probablement évidemment parce que c'est une femme, mais à Angela Merkel également. Est-ce qu'il y a des raisons valables ?
Oui, alors je pense que dans le pragmatisme, dans le sens de la négociation, du dialogue, je pense que ce sera au moins pour les négociations une personnalité qui sera bien à même de comprendre à la fois les attentes des Européens, puisque tout pays européen peut mettre son veto aux accords négociés avec le Royaume-Uni. Et elle n'invoquera l'article 50 du traité de Lisbonne que lorsque la stratégie britannique de retrait de l'Union européenne aura été définie. Et c'est la raison pour laquelle elle veut attendre peut-être la fin de 2016 ou voire même début 2017.
Alors que les voisins européens, la presse, à l'inverse, pensaient qu'elle a les reins suffisamment solides pour faire fi des pressions européennes.
Je pense que de toute façon, le dialogue, les négociations vont être engagées à l'automne, comme l'a dit Martin Schulz aujourd'hui, sans rancœur. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer le Royaume-Uni comme le déserteur, mais simplement comme un membre d'une famille qui a décidé de prendre une décision, une direction différente. Et c'est l'intérêt de l'Union européenne de négocier un divorce à l'amiable, disons-le, parce que le Royaume-Uni est quand même la seconde économie européenne, que le Royaume-Uni choisisse un modèle à la Norvège en adhérant au marché unique et à l'espace économique européen, ou bien un modèle à la canadienne avec un accord bilatéral avec l'Union européenne. L'enjeu est crucial, à la fois en termes économiques, mais aussi en termes stratégiques, en termes de défense, en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de lutte contre la crise des migrants. Donc ce sont des décisions qui devront être prises et des négociations qui seront lancées à l'automne sans pour autant tout de suite invoquer l'article 50 qui est rédhibitoire.
Est-ce qu'elle ne va pas se mettre tout de suite, là justement, 4 millions de personnes sur le dos, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce sont ceux qui demandent un nouveau référendum. Elle a dit il n'y en aura pas. Ça commence à compter quand même 4 millions de personnes.
Oui, alors certaines personnes ont même dit que ce référendum finalement n'avait aucune valeur juridique liante, d'obligation juridique. Mais je pense qu'on ne peut pas faire fi du peuple britannique qui s'est prononcé à 51,9% pour le retrait de l'Union européenne, même si la campagne a été délétère, même si il ne comprenait pas toujours l'enjeu du Brexit, et même s'ils ont été peut-être manipulés aussi par Boris Johnson, qui s'est retiré de la course puisqu'il n'avait même pas lui-même prévu comment se mettrait en place un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Il va falloir qu'elle forme un gouvernement, évidemment.
Dans les 48 heures.
Voilà, ça commence à urger. Oui. C'est la grande question. Comment peut-elle faire ? Il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, la classe politique britannique, elle est explosée.
Oui, alors, ça va être un défi pour elle. Parce qu'il faut savoir que, donc, au sein du parti conservateur à la Chambre des communes, 130 députés ont voté pour le Brexit. Certains d'entre eux vont faire partie de son gouvernement. Alors, son chef de campagne était Chris Grayling, qui aura certainement un gros portefeuille ministériel, peut-être le ministère de la Justice. Liam Fox, qui lui a apporté son soutien au moment de son retrait à l'issue du premier scrutin du 5 juillet, aura certainement aussi un gros ministère. Il était ministre de la Défense dans le premier gouvernement de David Cameron. Il sera peut-être ministre de l'Intérieur. On peut se demander quel sera l'avenir de Stephen Crabb, ce modernisateur du Parti conservateur, ou Sajid Javid, qui était ministre du Commerce, et encore Theresa Villiers ou Liz Truss. Mais elle devra faire, en tout cas, très vite, demain, lorsque David Cameron ira remettre sa démission à la reine, elle rentrera à Downing Street et elle commencera former son gouvernement.
On sait que les relations justement avec la reine, entre le Premier ministre et la reine, sont essentielles en Grande-Bretagne. Est-ce qu'on sait déjà, même si la reine ne se prononce jamais, me semble-t-il, sur des personnalités publiques, est-ce qu'on peut imaginer comment peuvent se passer les relations entre la reine et Theresa May?
Alors, on sait que les relations entre Margaret Thatcher et la reine Elisabeth II étaient très difficiles. Je ne sais pas.
Elle n'est pas habituée à composer avec les femmes.
Voilà. Elle a été habituée à avoir son premier ministre préféré, c'était Winston Churchill. Évidemment. Elle s'entendait parfaitement bien avec David Cameron, qui était un cousin de la famille royale.
Ça a été compliqué avec Tony Blair, me semble-t-il.
C'était, oui, parce qu'il lui avait enlevé son Royal Britannia. Et d'ailleurs, elle n'a jamais voulu qu'il entre à la Chambre des Lords, ce qui est généralement le lot des premiers ministres qui quittent Downing Street. Donc, Theresa May, je pense, a cette souplesse en même temps, ce pragmatisme. C'est une fille de pasteur qui veut redonner de la morale à la politique. Et ça ne peut que plaire à la reine. C'est une grande pratiquante. C'est aussi une femme politique qui a critiqué la manière dont les hommes politiques considéraient la politique comme un jeu. Et on voit évidemment le clin d'œil à Boris Johnson.
Elle en a joué également quand même un petit peu, il faut être honnête. Elle a joué de manière très habile ces dernières semaines.
Oui, bien sûr. Non, mais certes. Et vous savez, c'est une personne qui est très expérimentée. Elle est députée de Maidenhead depuis 1997. Elle pensait même déjà à se présenter à la tête du Parti conservateur en 2004. Et puis, face aux candidatures de David Cameron et de Davis, elle a renoncé. Ce n'est pas une novice de la scène politique.
Les Français la découvrent, mais
les Britanniques la connaissent très bien. Et elle est appréciée. Elle a été très ferme avec les délinquants. Elle a été très ferme dans la crise des migrants. Et elle est connue en France quand même. Elle a négocié avec notre ministre de l'Intérieur, Monsieur Cazeneuve, au moment de la crise de Calais. Je crois que elle a montré qu'elle était à même de juguler une crise et de faire face à une situation difficile. Et Dieu sait si la situation va être difficile.
Alors justement, on va voir quelle pourrait être sa politique, quelles pourraient être les premières mesures mises en place. Auparavant, on va voir avec Jean-Baptiste Huette l'héritage laissé par David Cameron.
La Big Society, c'était la colonne vertébrale de la politique de David Cameron. Son principe, le transfert de certaines responsabilités d'État vers les autorités et les associations locales. Donner plus de moyens et de pouvoir aux citoyens, aux entreprises sociales et au secteur bénévole. Ainsi, par exemple, sont apparues les free schools, les écoles libres, des start-up scolaires en quelque sorte, montées par des associations de parents d'élèves, des établissements privés dans leur gestion, mais publics dans le financement, 2,5 millions d'élèves sont aujourd'hui scolarisés dans ce type d'établissement. David Cameron, c'est aussi l'austérité. Augmentation de la TVA, taxes sur le chiffre d'affaires des banques, baisse des dépenses des ministères, le gel des traitements des fonctionnaires, des prestations sociales. Les économistes n'hésitaient pas à évoquer le plan le plus sévère depuis l'après-guerre. Une austérité qui n'a pas empêché sa réélection confortable il y a plus d'un an. Durant le mandat de David Cameron, la Grande-Bretagne a semblé se jouer des obstacles, se faufilant entre la crise des subprimes, puis la crise des dettes souveraines, une croissance record en 2015, un taux de chômage aux alentours de 5%, des résultats qui laissent songeurs nombre de dirigeants européens. Marqueur de sa politique de l'emploi, les contrats zéro heure qui permettent d'embaucher des salariés sans obligation de leur fournir un travail. Près d'un million de personnes bénéficient de ce régime et ne sont donc plus comptabilisées dans les chiffres du chômage. Mais pour les détracteurs de David Cameron, ces bons chiffres ont été obtenus au détriment des conditions de travail. Ces derniers fustigent l'explosion de la pauvreté et des inégalités dans le pays. Enfin, une autre inquiétude se fait jour, la bulle immobilière. Des années que les prix flambent. Après le Brexit, les fonds immobiliers ferment les uns après les autres. Un dossier particulièrement délicat que devra gérer son successeur, Theresa May.
Voilà donc ces explications signées Jean-Baptiste Huette. Nous sommes toujours avec Sophie Loussouarn, spécialiste de la Constitution britannique. On essaye de comprendre, on a essayé de comprendre, on la connaît mieux maintenant grâce à vous, qui est Theresa May. On va essayer de voir ce qu'elle peut faire maintenant dans les prochains jours. Il semble quand même que la situation économique s'améliore après le choc du Brexit, évidemment. La livre remonte, la bourse est remontée également. Tout ça, c'est plutôt bon pour l'investissement et pour les investisseurs. En termes de politique, concrètement, est-ce qu'on sait déjà ce qu'elle souhaiterait faire ?
Alors, je pense qu'elle veut moraliser aussi le capitalisme. C'est-à-dire qu'elle ne s'orientera pas vers un capitalisme thatchérien. Elle ne va pas libéraliser davantage l'économie. Elle plafonnera peut-être les bonus des banquiers. Mais elle est très attachée aussi au respect de l'impôt. Donc c'est une personnalité progressiste qui va donner une image du conservatisme social. Voilà.
Mais qui va se heurter forcément à des problèmes de croissance. Jean-Baptiste nous parlait d'une croissance exceptionnelle sous David Cameron en 2015, qui était de l'ordre de 2,6%, si je ne me trompe pas. J'imagine que vous avez vu le fonds d'investissement BlackRock qui dit que la Grande-Bretagne va entrer en récession l'année prochaine et sa croissance pourrait perdre 0,5% par an sur les 5 prochaines années.
Oui, on peut attendre en effet une chute du PIB de 1%. Oui, ça c'est clair. De même que le chômage pourrait augmenter en 2017 à 6 ou 6,5%. Le taux de chômage du Royaume-Uni est un des plus faibles de l'Union européenne aujourd'hui, à 5%. La politique économique de David Cameron et de son ministre des Finances, George Osborne, a été créatrice de plus de 2 millions d'emplois dans le secteur privé, a réussi à réduire le déficit public, la dette publique, l'inflation a été maîtrisée après cette crise économique très grave qu'avait traversé le Royaume-Uni en 2008 et 2009. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas confrontés à une crise économique mondiale comme en 2008 et en 2009. C'est-à-dire que le Royaume-Uni va traverser une zone de turbulence pendant les négociations et connaîtra certainement une récession pendant les 3 ou 4 prochaines années, puisque les négociations avec l'Union européenne pourraient durer jusqu'à 6 ans. En tout cas, plus de 2 ans prévus dans l'article 50 du traité de Lisbonne.
Vous pensez qu'elle va partir à la pêche, où le terme n'est pas beau, mais qu'elle va aller draguer les investisseurs étrangers? On sait qu'eux-mêmes sont dragués par un certain nombre de pays européens, notamment la France. Elle a les moyens de les retenir aujourd'hui à Londres, notamment, on pense évidemment à la City.
Alors, ce qui va se passer, c'est que le Royaume-Uni va négocier des accords bilatéraux, par exemple, avec des pays du Commonwealth, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, ou encore avec la Chine, avec l'Inde. Et alors, ce sont des partenaires commerciaux de premier plan. Mais il faudra également maintenir l'implantation européenne du Royaume-Uni. Et là, ce sera beaucoup plus délicat, selon l'option choisie. Et évidemment, pour, par exemple, l'industrie automobile, ce sera très difficile. Et d'ailleurs, le Japon avait mis en garde contre une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour Nissan, pour Toyota, ce sera très difficile de maintenir ces usines au Royaume-Uni, parce qu'ils seront confrontés évidemment à des taxes supérieures à celles qu'ils payaient lorsque le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne.
On arrive à la fin de ces décodeurs. Petite question qui peut sembler anodine, mais qui, à mon avis, ne l'est pas. Vous connaissez bien le monde politique britannique. Est-ce que c'est un monde macho ?
Alors, ça faisait longtemps, en effet, qu'on n'avait pas vu depuis 1990 une femme Premier ministre. Mais vous avez à la tête de l'Écosse Nicola Sturgeon, qui était jusqu'à demain la deuxième femme la plus puissante du Royaume-Uni. Alors, Theresa May deviendra la deuxième femme la plus puissante et Nicola Sturgeon la troisième femme la plus puissante du Royaume-Uni. Je crois qu'aujourd'hui, on assiste au Royaume-Uni à une montée en puissance des femmes dans le monde politique, notamment aussi avec le défi lancé par Angela Eagle à Jeremy Corbyn à la tête du Parti travailliste. Donc, ce sera intéressant de suivre l'avenir de ces femmes dans le monde politique et vous avez aussi dans le gouvernement l'ancien gouvernement sortant de David Cameron un certain nombre de femmes qui seront peut-être appelées à exercer de nouvelles fonctions dans le gouvernement de Theresa May.
Merci beaucoup pour vos explications et vos éclairages. Sophie Lusswarm, donc spécialiste de la Constitution britannique, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et auteur donc de David Cameron, un conservateur du 21e siècle. Merci encore. C'est la fin de cette émission. Comme chaque soir, évidemment, vous pourrez retrouver les décodeurs en rediff à partir de 23h30 et puis en direct ici même dans ce studio demain dès 19h. À suivre Tech & Co avec Sébastien Coinon. Très bonne soirée à tous. À demain.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.